Je m'appelle Bénédicte Ratniec, je suis doctorante en géographie et les jeux vidéo ne sont pas du tout mon objet de recherche. Donc aujourd'hui, je vais plutôt présenter des pistes de réflexion plus que des résultats très aboutis. Pourquoi les jeux vidéo dans une recherche qui a trait à la ville, aux villes en guerre et à la géographie des villes en guerre? Parce que au départ, je suis joueuse, je pense qu'on peut le dire. Et du coup, en ayant cette pratique des jeux vidéo de façon ludique, je me suis quand même interrogée sur cette présence des guerres urbaines, des guérillas urbaines, du terrorisme également urbain qui sont régulièrement vendus comme des menaces récurrentes dans les villes présentées dans certains jeux vidéo. D'où l'idée d'avoir illustré ce premier slide par GTA 4, qui est peut-être l'exemple le plus emblématique de cette guerre urbaine, mais qui est vraiment poussée à l'extrême, où chacun, enfin cette guérilla urbaine en l'occurrence, où chacun se bat contre l'autre, qui serait vraiment l'extrême et la caricature de la guérilla urbaine. Donc ce qui m'interrogeait, c'était de voir la vulnérabilité de la ville présente dans différentes formes de jeu. Donc à savoir que le corpus sur lequel je m'appuie, c'est des jeux de console qui sont des gros succès, en tout cas des sagas dont le succès est mondial, qui peuvent interroger en fait sur la réception du joueur face à ses représentations de la ville. On part pas là de jeux de type pédagogique ou en tout cas qui ont cette démarche, mais l'interrogation de base c'était de savoir ce que les jeux vidéo donnent à voir de la ville. Au dernier séminaire, on avait parlé de ce que le jeu vidéo fait faire aux joueurs. Bah là, c'était plus comme sur des travaux sur le cinéma, sur la bande dessinée, sur la littérature qui peuvent être faits, notamment en géographie, s'interroger sur quelles villes sont montrées aux joueurs et dans lesquelles le joueur accepte de jouer, puisque je pars du postulat que un gros succès en jeu vidéo ne tient pas simplement au plaisir de jouer, au mécanisme du jeu, etc. Ça peut faire un jeu. De là à faire à une saga, il faut qu'il y ait un imaginaire spatial qui soit vendu, accepté et relayé auprès des joueurs. Donc comment le concepteur vend cet imaginaire spatial et comment, quelles spatialités peuvent être acceptées par le joueur. Donc, pour voir cette évasion que recherchent les joueurs dans des mondes imaginaires, on peut voir la ville d'un point de vue, justement, la ville imaginée, mais surtout la ville représentée, qu'elle soit dans la négation de la ville réelle, ou dans quelque chose qui a trait à l'hyper-réalisme qu'on pourrait essayer de retrouver dans des jeux comme GTA 4, qui serait même un hyper-réalisme caricatural. Mais justement, la caricature fait peut-être que c'est ça qui procure l'adhésion du joueur. Donc, voilà. Ce qui m'interrogeait, c'était de savoir ce que nous apprennent les jeux sur la manière dont on conçoit la ville et dont on pense la ville, sachant que la ville, au départ, c'est quelque chose qu'on a du mal à définir, définition sur laquelle on a du mal à s'accorder, où sont les limites de la ville. Donc, mais cette définition, elle pose pas de problème aux joueurs, puisque la ville qui est donnée dans le jeu reste un espace de vie, et aussi un discours lui-même sur la ville réelle. Donc, je ne m'attarderai pas sur les jeux qui prennent la ville comme un décor, Donc j'ai mis par exemple Mario. C'était très caricatural d'avoir pris Mario parce que on est dans un monde très coloré où vraiment bah là le bâtiment, la ville, les petites maisons, etc. ne sont qu'un décor, mais plus sur des jeux plus récents qui mettent la ville, qui donnent une place à la ville dans le jeu. Donc que ce soit en termes de paysage ou donc là ça interroge l'esthétique, ou en termes d'espace de vie dans lequel le joueur doit réellement composer ses spatialités, ses mobilités. Donc pour voir la place de la ville dans les jeux vidéo, on peut avoir des jeux très très différents. On en avait parlé, c'était le séminaire de mai 2009, si je ne dis pas de bêtises, où il y avait deux intervenantes qui étaient revenues justement sur l'esthétique du
Ah oui,
paysage
j'en
dans
avais dit.
les... C'était mai 2009, hein,
Oui,
donc
c'est
je dis pas
ça.
de bêtises.
Dans l'Antiquité.
Dans l'Antiquité. Donc, du coup, comme ça avait été abordé à ce moment-là, je vais un petit peu faire l'impasse. On pourra y revenir sur les questions et plus m'attarder sur des jeux qui prennent la ville comme territoire du quotidien, dans lequel vraiment le personnage incarné va agir. Et donc, on va être soit dans les City Games, soit dans des jeux. Alors pour moi, les jeux qui donnent le plus à voir la ville, alors c'est peut-être un prisme de joueuse, hein, ce serait peut-être les jeux de skateboard. Parce que là, vraiment, si le joueur s'amuse avec la ville, en fait, hein, c'est vraiment à partir des infrastructures. Alors au départ, on n'est que sur les infrastructures parce qu'on n'est pas un bon joueur de skateboard. Et puis au fur et à mesure, on va aller vraiment sur les bâtiments, etc. On peut rentrer dans les immeubles, enfin, s'approprier au fur et à mesure la ville dans ce type de jeu fait partie du plaisir du joueur. Avec l'exemple là d'un des jeux de skateboard. Alors je suis désolée, hein, mais enfin, travaillant sur des jeux de console, j'ai pas de capture d'écran et du coup j'ai pas forcément les images les plus représentatives. J'ai fait comme j'ai pu avec des images internet et parfois quelques photographies, mais c'est très compliqué à faire. Mais du coup, on n'est plus là dans une ville qui sert d'esthétique. On est vraiment dans une ville qui a toute sa place dans le jeu. Et enfin, cette ville imaginaire peut apprendre aux géographes, aux sociologues, la façon dont le joueur veut bien accepter cette ville et cette ville représentée. Donc, alors, une typologie, ce serait peut-être beaucoup, beaucoup dire, mais en tout cas, je vais distinguer deux types de représentation de la ville. De façon très caricaturale, prendre vraiment deux extrêmes. D'une part, les jeux, je vais appeler de type réaliste, en tout cas ceux qui recherchent dans la conception de la ville une ville qui serait la ville réelle, soit idéale, soit menaçante, mais dans laquelle chaque joueur pourrait voir la ville dans laquelle il vit. Donc là, c'est... Enfin, les images, c'est une image de GTA 4 face Liberty City, face à la New York réelle. On pourrait faire beaucoup de captures d'écran comme ça et retrouver des bâtiments de New York qui a servi de modèle, mais on ne peut pas limiter en fait ce modèle new-yorkais. Enfin, enfin, les paysages et les monuments signalent bien la ville de New York, et pourtant ce n'est pas New York, et pourtant les joueurs de Tokyo, de Paris, qui ne vont pas avoir tout à fait cette architecture-là, vont pouvoir s'approprier cette ville, même s'ils ne sont jamais allés à New York, parce que quelque part, dans GTA 4, on est plus finalement dans une représentation de la ville-monde, dans une représentation d'une ville... un peu, enfin, complètement imaginaire, qui serait une New York à la topographie un peu farfelue. Par exemple, il y a un décalage, donc c'est la carte de Liberty City, et c'est pas la carte de New York. Alors certes, on retrouve Manhattan, on retrouve le Bronx, mais on a vraiment le décalage entre dans la localisation des lieux emblématiques de New York et des quartiers. Et également, les concepteurs ont joué sur des modifications toponymiques. De mémoire, hein, le Bronx devient Bohan, Manhattan c'est Algonquin, le Queens c'est Dukes. Donc on est en créant cette géopoétique quelque part de la ville de New York, c'est aussi une manière de représenter une ville et pas la ville de New York, une ville dans laquelle chacun pourrait retrouver des quartiers qu'il peut fréquenter ou du moins qu'il imagine, c'est-à-dire que c'est pas forcément destiné aux populations urbaines, mais à des populations qui s'imaginent une ville proche. Donc en fait, le joueur se sent à la fois dans une ville étrangère, puisque c'est pas tout à fait la ville qu'il habite ou qui est à côté de chez lui, et à la fois familière, parce qu'elle reprend toujours certains mécanismes de la ville avec des quartiers riches, avec des quartiers résidentiels et les fonctions urbaines qui vont être parfois séparées, parfois mélangées, avec justement une certaine ségrégation.
Si je peux me permettre, le décalage entre la ville entre Liberty City et New York n'est pas forcément perçu par tous les joueurs, dans la mesure où ceux qui savent vraiment à quoi ressemble New York, c'est-à-dire à quoi ressemble la carte de New York, et puis à quoi, où sont telles et telles, enfin tout le monde sait qu'il y a la Statue de la Liberté, qu'il y avait les Twin Towers, qu'il y a l'Empire State Building, tout le monde ne sait pas où elles sont précisément dans la ville, et les joueurs chinois, les joueurs thaïlandais, les joueurs français ne savent pas forcément que. Harlem est au-dessus, Central Park est en dessous, et que je sais pas, enfin, il y a donc le décalage n'est pas nécessaire. Enfin, si on se place du point de vue des joueurs, le décalage n'est pas forcément.
Mais justement, ce décalage, je
Ça peut
pense
être.
qu'il renforce le réalisme, en fait. Peu importe que ce soit New York ou. Ça aurait pu être Tokyo, quelque part, Central Park peut faire penser à un joueur tokyoïte, à ce grand espace, différent, hein, mais qui est. Je sais
Oui,
plus
mais.
comment ça s'appelle. Ce que je veux dire, c'est que y a quand même une appropriation, même si c'est pas leur ville. Il y a ce côté étranger, c'est clair, parce que c'est New York qui a servi de base et que en effet la Statue de la Liberté ils l'ont pas chez eux. Mais quand ils se baladent dans les quartiers, très très sincèrement, on oublie clairement que c'est New York et on est dans une ville. C'était dans ce sens-là que qui aurait pu être une ville pas si lointaine que ça. Pas forcément aux États-Unis. Je me suis peut-être mal
Oui, non,
exprimée.
mais
C'était
je... Oui, non, c'est vrai,
plus
je comprends.
justement cet écart. Je pense que justement l'écart entre le modèle new-yorkais et la ville imaginaire qu'ils ont voulu créer va renforcer le réalisme et cette appropriation.
Mais un joueur français qui joue à GTA 4, il sait qu'il est dans une ville à l'américaine. Il transpose pas dans une ville. Il peut pas se dire, je suis dans une ville européenne. C'est
Non.
pas. Non.
Non, non, parce qu'il y a le CBD, parce que
D'accord.
y a tout ça, mais
Bah, d'où représentation de la ville-monde, parce que enfin,
c'est la
oui, c'est
ville
la
monde,
ville
ouais, plus
mondiale
que
en soi, c'est
c'est la ville américaine devenue la ville
c'est
mondiale
la
quoi.
ville de Naples en
Et
fait.
pour le
Oui,
coup,
c'est
est-ce
la
qu'il y a
mégalopole.
une
Oui,
ville monde
mégalopole.
dans
Ouais,
dans les
alors,
villes
je connais pas,
européennes?
est-ce que quand tu vas dans Bohan, dans Bronx, est-ce que c'est des maisons en briques rouges ou des choses comme ça? Est-ce que. Non, non, mais je veux
Non,
dire,
non, mais faut que je réfléchisse
parce
parce
que
que
là, depuis le début,
j'ai.
on est dans un CBD, on est dans des tours, on est dans des grandes avenues.
Ah
Et
oui,
est-ce.
non.
Non,
Non, non, non,
c'est.
non. Ça,
Oui,
c'est juste
d'accord.
une capture d'écran parce que, c'est ce que je disais, j'ai fait avec les images. Malheureusement, les images qui sont vendues sont souvent celles du concepteur, celles qu'on trouve sur Internet, sont souvent celles du concepteur qui montrent la belle ville. Même les joueurs, hein,
Alors.
quand ils font des captures sur SimCity,
Ouais.
ils montrent rarement les quartiers bidonvilles, quoi.
Mais pour
Euh,
autant, l'enjeu, ils y sont.
pourtant, ils y sont.
D'accord.
Ils sont, je voulais y venir après, mais justement, c'est vraiment le biais de travailler sur console et du coup de ne pas forcément avoir tout le mécanisme de capture d'écran qui peut se faire sur des jeux en ligne. Et du coup, le diaporama va peut-être pas toujours être représentatif, mais clairement, oui, il y a des zones d'ombre. GTA 4, pour le coup, on travaille surtout sur les zones d'ombre, je dirais. Parce que c'est vraiment la guerre urbaine, chacun, chaque personnage qu'on peut rencontrer peut être potentiellement quelqu'un qui veut vous tuer. Donc, pour faire simple, hein, sur le mécanisme du jeu, on est plutôt sur ça. Dans GTA 4, ça dépend aussi de qui on joue au départ. On peut jouer un tueur, hein, on peut jouer un dealer, on peut jouer un proxénète, et juste, on peut être du côté de la loi, mais en étant ces personnages-là, au contraire, on va être plus à même à être dans les quartiers peut-être mal fréquentés, je ne sais pas comment on peut les dire, mais même à mieux enfin, le joueur sera plus attentif, par exemple, au transport. Quel transport il pourra prendre pour fuir la police. Il va être plus attentif à certaines infrastructures que s'il joue quelqu'un d'autre. Donc il va pas avoir la même appropriation de la ville en fonction. Tout à l'heure on parlait du manque d'acteurs. Bah là, enfin pour le coup, on est un acteur.
Là, on est vraiment maintenant.
On est vraiment un acteur. Bon,
C'est différent.
on est un tueur. C'est un choix. Mais on peut être de l'autre
Les
côté.
pratiques urbaines sont liées directement au personnage qu'on joue. Les pratiques spatiales sont
Oui.
différentes selon le personnage.
Moi, j'ai pas joué tous les personnages, mais en jouant deux très très extrêmes, oui, c'est différent. Ça veut pas dire qu'on peut pas se faire tirer dessus tout le temps, mais on va avoir des lieux où on s'arrête. Enfin, en jouant un tueur, moi je trouvais vraiment que je faisais vraiment beaucoup plus attention au transport, beaucoup plus attention
S'échapper dans des tueurs.
comment s'échapper tout simplement. Alors je
Tout le
sais
monde est
pas,
un
hein,
tueur, donc personne ne sait quels sont les autres personnages.
C'est de
il
la
y a, y a
psychologie.
certainement de ça, ouais.
J'ai une autre question. La carte, dans le jeu, on ne sort pas des limites. Hein, dans le jeu, on ne sort pas. Donc la ville, elle aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est un isolat.
Ouais, ça
Oui,
vient
hors de la ville. Et encore,
sur GTA
certaines
4.
villes, je pense pas qu'il y ait les suburbs, à l'américaine, elles y sont. Tu sais, l'église, c'est
Non,
tendu,
non,
on
non,
a
non, non,
l'impression que
non,
c'est bien.
non, non,
Ce
pas
qui veut
sur
dire concrètement, donc
non,
la
et
ville,
tu
c'est un
cherches.
isolat, c'est-à-dire c'est un lieu clos
Sur ce type de jeu,
sur
oui.
ce type de jeu.
Ouais,
Quelqu'un
ça.
qui joue beaucoup, est-ce que ça va induire ses représentations sur. Hein, à la limite, il va faire d'archipel mégalopolitain mondial sans le savoir.
Bah,
C'est-à-dire une
il est là,
série
hein.
d'îles.
Il est
Oui,
là,
mais
c'est cette
là, en
ville.
plus, c'est
C'est
une
une
île,
île, en
donc je
fait.
trouvais que sur le
Ah,
coup,
c'est une
Liberty
île
City.
volontairement, c'est
Oui,
ça? C'est une...
Liberty
Ah, d'accord.
City
Donc,
et.
ils ont. En fait, ils ont
Oui,
pris
voilà.
le truc de l'île pour
Pour faire
finir
l'isolat,
l'isolat,
oui.
pour finir.
Mais ça,
Entouré d'eau.
c'est pas propre aux représentations de la ville. Enfin, en
C'est
gros,
dans
dans
tous les
les jeux
jeux.
vidéo, on a, enfin, en particulier dans les jeux d'aventure, souvent ça se passe sur une île ou alors sur un continent. Un seul continent qui est complètement entouré d'eau, parce que c'est une manière aussi de limiter la marge de manœuvre du joueur. Alors il y a certains artifices dans
Sauf
certains
dans
jeux.
l'Oblivion où tu as des murs invisibles.
Voilà, alors il y a certains
Il y a des murs
artifices.
invisibles dans
Au
l'Oblivion.
bout d'un moment, on ne peut plus avancer. Mais
C'est
par
pas
contre, on
mal
voit
ça.
l'au-delà. Comme si c'était une manière de dire aux joueurs, bon d'accord, il y a un artifice, le jeu s'arrête, parce qu'on n'a pas les capacités de développer un univers total, mais on fait comme s'il y avait
Il y a un
autour.
horizon.
Voilà. Dans Dragon Age, par exemple, ça se passe que sur un seul continent, mais on entend souvent parler d'autres contrées. Mais on n'ira jamais.
Il y a des jeux où ça se passe dans un endroit, enfin c'est une planète quoi, c'est une sphère, et il me semble que Secret of Mana on peut en faire le tour.
Bah, où tous
En dragon, on
les Final
peut
Fantasy,
tourner tout autour
Ouais,
de
mais
Final
Final
Fantasy,
Fantasy, c'est un
de
peu
Chrono
ça aussi.
Trigger.
Hein.
Bon, enfin voilà,
C'est une manière de faire le
Ça
monde
rappelle
aussi.
ce feuilleton là qu'il y avait dans les années 70, là,
Le
comment il
prisonnier?
s'appelle? Voilà, le prisonnier.
Ouais, c'est un peu ça, ouais.
Ça reprend un peu les trucs du prisonnier.
Mais justement, enfin, c'est le type d'univers où on pourrait faire vraiment des parallèles avec les travaux qui peuvent être faits sur le cinéma, sur les séries télé, sur même la bande dessinée
Les
pourrait
héros des jeux vidéo ne sont pas uniques.
être.
Quelle
Désolée,
découverte!
non.
Un continent entier,
Il y a
quoi.
des
Nous vous invitons à lire notre projet
Il y a des stéréotypes qui
d'ANR.
reviennent tout le temps. Aussi.
Et oui.
Alors, du coup. Donc oui sur enfin sur cette ville qui se veut hyper réaliste donc qui est vendue comme telle, représentée comme telle. Elle ne l'est pas, mais elle est en tout cas conçue comme telle et souvent acceptée comme telle pour le joueur, puisque dans GTA 4, on n'est pas du tout dans de la science-fiction ou de la fantasy, on est dans un univers où la ville est utilisée comme... comme une menace en fait, enfin, c'est-à-dire que c'est toutes les vulnérabilités de la ville qui vont pouvoir être utilisées pour mettre en scène le scénario et de fait ce qui m'interrogeait par rapport à tout ça c'était de voir que on pouvait faire clairement un parallèle avec des jeux qui pour le coup ne sont pas du tout dans le même univers, qui vont prendre carrément l'extrême inverse, à savoir là on est dans un univers qui se veut volontairement imaginaire, dans les jeux de type fantasy, donc tous les RPG, on parlait de Final Fantasy, va en faire partie, pour prendre deux grandes sagas, ça va être Final Fantasy et Zelda, mais tous les autres jeux de cet univers médiéval fantasy, je ne sais pas comment on peut le définir, un peu Seigneur des Anneaux, hein, en fait, cet univers-là. Donc là non plus, hein, le jeu vidéo n'est pas unique, au contraire, il reprend des mécanismes scénaristiques déjà existants. La ville va être soit presque absente, on va être dans le village idéalisé, c'est-à-dire que la ville n'est plus... Enfin, dans ce monde justement qu'on veut complètement décaler par rapport au monde réel, le lieu de sociabilisation idéal sera soit le petit village, là c'est le modèle Zelda, qui au fur et à mesure a un peu intégré la ville. Quand je dis le modèle Zelda, aux origines, ouais, ouais. On est dans le petit village, c'est clair et net qu'au fur et à mesure, on en a une capture très mauvaise d'écran justement où... non, on l'a pas là.
Non, mais sur les derniers.
Mais sur les derniers, je l'ai mise plus tard. Sur les derniers, on a plus des petites villes. De la même façon, dans Final Fantasy, on part quand même plus de la ville comme espace-refuge, comme lieu de commerce, lieu d'échange, lieu de rencontre, mais qui s'oppose radicalement aux autres espaces. Bon, je vais en prendre qu'un, hein, je ne vais pas détailler, mais la forêt. Mais ça peut être les plaines, en fonction du scénario, ce n'est pas toujours la même chose. La forêt est assez récurrente. La forêt, c'est l'espace des monstres, là où on va combattre, là où le héros va aller chercher sa quête, etc. Va progresser, va pouvoir rejoindre une autre petite ville ou un autre village. Donc on n'est pas du tout dans des villes qui peuvent s'étendre infiniment. Souvent, les villes, elles sont même closes par des remparts. Donc, on est dans cet univers médiéval fantasy, hein, mais où on idéalise le village ou la petite ville comme la ville idéale. C'est-à-dire que l'espace de rencontre, de sociabilisation, là où il ne peut pas y avoir de conflit, là où ça reste un espace où le héros vient chercher justement alors, soit des conseils dans Zelda, soit dans Final Fantasy, il va aller à la rencontre, soit aller chercher des partenaires, soit pour, je cherche le mot, mais pour s'équiper, tout simplement, hein, pour vendre son équipement, pour transformer son équipement, etc. C'est dans ces jeux-là, quand les ennemis attaquent la petite ville, c'est une transgression quelque part. Hein. Il y a toute une mise en scène musicale. Il y a toute une mise en scène musicale. Il y a toute une mise en scène aussi au niveau des couleurs. C'est l'interdit de justement. De la destruction de cette petite ville qui ne devrait pas être détruite parce que elle est tellement idéale et ça vient toujours de l'extérieur.
Il y avait un sondage récemment, là, la ville idéale pour les Français, 20 000 habitants.
Oui, mais on est dans une représentation...
C'est vrai qu'elle est imprenable, quoi, la ville idéale, forcément, quoi, puisqu'elle est idéale.
Oui, et puis il n'y a pas de conflit d'usage, il n'y a pas de conflit de voisinage.
Mais c'est
justement, enfin, il y a beaucoup de textes
ville,
qui montrent.
C'est aussi une ville super utilitaire, la ville de Zelda,
ah oui.
Par exemple. Enfin, c'est une ville dans laquelle chaque élément a une fonction. C'est une ville où dans
bien
laquelle
sûr.
Il y a un forgeron pour acheter des armes,
ouais.
Une auberge
en
pour se soigner, etc.
C'est la ville touristique de Waldbeck dans la carte.
Non, c'est surtout la ville complètement héritée des jeux de rôle, en fait.
Complètement,
où,
oui.
Où,
oui.
C'est le lieu où on achète l'arme et où on active la quête.
Exactement.
En gros, c'est ça. Et où on se repose à la table.
Et dans certains jeux stratégiques, dans Heroes of Might and Magic, c'est exactement cette ville-là. C'est-à-dire que la ville, c'est rien. C'est des bâtiments qu'on construit, qu'on rajoute, mais chacun a une utilité très claire qui est définie, etc. Et en fait, la ville, on y va et puis on clique sur les barrages pour recruter tel monstre, telle autre chose pour recruter tel autre monstre, etc.
Oui, alors justement, je voulais y venir juste après, donc je vais passer un petit peu en avant, puis je reviendrai. C'était le questionnement qui venait après sur cette ville idéale. Elle présente quand même quelque chose qui est clair, c'est la ségrégation. Final Fantasy, pour en prendre certains, on a quand même, dans ce monde-là. C'est le monde d'Ivalis. On a quand même des villes, c'est des points sur la carte déjà, qui vont être reliés par des routes et qui sont quand même assez éloignées et qui présentent une ségrégation communautaire qui est claire. On va avoir, je crois que c'est dans Tactics Advance, le port commerçant, c'est la cité des Mogs. On n'a que des Mogs qui habitent là. Alors certes, il y a des marchands qui viennent. Mais c'est vraiment les Mogs, c'est des petits personnages. Je ne sais pas trop comment les décrire. Voilà, c'est ces petits ces petits lapins là, je ne sais pas. Et puis à côté, on va avoir Cadoan qui est là, la ville des alchimistes. Donc pareil, c'est une communauté particulière. Donc là, c'est les grands lapins, je ne sais pas comment dire, avec les grandes oreilles. Je ne sais pas trop comment décrire ces personnages, mais du coup, qui ont vraiment, non seulement ils appartiennent à une communauté, mais en plus, ils ont une fonction. C'est-à-dire que les Mogs auront toujours la même fonction dans le jeu, évolueront toujours de la même façon. Les alchimistes, qui sont ces personnages, appartiennent à cette communauté, ont toujours que pour fonction... c'est les Noumous, je crois, leur nom, mais j'ai un doute.
Dans World of Warcraft, on commence dans un endroit différent en fonction de la race. Et on commence, et en général, on commence dans un endroit qui a 2-3 tableaux de la capitale de la race en question, et chaque race, donc les 10 qui sont disponibles, ont leur capitale. C'est très clair, c'est un endroit où personne ne vit, quoi.
Mais du coup, je trouve que cette ségrégation qui est reproduite dans cette vie idéalisée, interroge quand même beaucoup sur nos propres pratiques de la ville et sur la façon dont on doit penser la ville, puisque, dont elle est reçue en tout cas par le joueur, puisque le joueur accepte que cette version du gros village ou de la petite ville idéalisée mette en scène une ségrégation poussée à l'extrême, qui est peut-être même plus poussée que dans la réalité, parce qu'on est vraiment sur une séparation et des métiers et des communautés. Alors certes, après, ils font des équipes ensemble, mais c'est parce que chacun est utile à l'autre, en fait. C'est qu'il faut un magicien, il faut un alchimiste, il faut... pour Final Fantasy, par exemple, selon les classes, en fonction des jeux. Donc on va avoir cette mise en scène, de la ville idéale comme reproduisant les ségrégations, voire les accentuant. La ségrégation, bien évidemment, elle peut se voir dans des jeux bien, bien différents, des jeux de simulation, de gestion de la ville. Je pense que l'exemple, c'est City Life, qui serait de la même façon l'exemple peut-être le plus emblématique, où on a au départ deux classes. Donc, je ne sais plus, c'est la haute classe et la classe moyenne. Mais à l'intérieur, il y a trois communautés. Mais en fait, à l'intérieur de la classe moyenne, il y a deux réelles classes moyennes et il y a les démunis. Et chacun a sa fonction, en fait, dans la ville et doit apporter, en tant que main-d'œuvre ou en tant qu'élite, doit apporter sa contribution dans la construction de la ville et dans son étalement. Mais ce qui était assez
Exactement.
rigolo, c'est que c'est le genre de jeu où il y a beaucoup beaucoup de forums de joueurs qui reprennent, qui montrent leur capture d'écran, qui disent voilà ma ville telle que je l'ai construite, alors là, ma ville idéale. Et puis bah, j'ai un problème hein, parce que c'est l'exemple voilà, de ce joueur, mais alors ce type de témoignage, on en a. Sur toutes les pages de tous les forums où ce joueur dit et j'ai un problème, les démunis, donc qui sont vraiment la classe pauvre, sont dans mon quartier des Bleus, qui est une classe moyenne, qui est censée faire partie du même groupe au départ, et je n'arrive pas à les faire partir, trois petits points. Donc vraiment, mon problème dans le jeu, c'est qu'il y a une mixité sociale.
Il y a à la fois la question du déclassement, en fait, la classe moyenne, et la gentrification, en fait. C'est comme ça le phénomène de gentrification, en fait. C'est une
Alors, en
classe
fait, c'est
moyenne
plutôt.
déclassée qu'on souhaite voir faire partir
En
au
l'occurrence,
profit d'une.
dans City Life, c'est plus de
Ah oui,
invasion-succession que
voilà.
déclassement-reclassement. C'est-à-dire qu'une communauté chasse l'autre. Ce n'est pas une requalification d'une communauté ou une déqualification comme ça.
Et
Sauf que tu peux jouer sur des infrastructures pour.
Oui, tu peux
Pour
ensuite corriger. Mais c'est. City Life, c'est incroyable.
Oui, je pense que ça mérite une étude urbaine claire et nette, ce jeu, parce que là, vraiment, on est censé être dans de la ségrégation à l'intérieur de la même classe au départ, parce que dans le politiquement correct, le jeu a fait que deux classes, hein, les classes hautes, enfin, donc ces élites, et les classes moyennes, mais en fait, dans la classe moyenne, il y a une classe pauvre, hein, les démunis, déjà le nom. Laisse apparaître. Et sur ce type de réaction dans un forum, on va avoir derrière un nombre de réponses où tous les joueurs du forum vont dire: ah oui, c'est un vrai problème, moi j'ai ça, ça, ça comme solution. C'est-à-dire qu'ils acceptent complètement le fait que c'est un problème qu'il y ait cette mixité très relative hein, entre classe moyenne et classe
Et qu'il
pauvre.
faut chasser, quoi, en fait.
Il faut les chasser, oui.
Plus
Et voilà, son problème, je n'arrive
de
pas à les faire
chercher à
partir, je
intégrer,
crois
quoi,
que.
voilà.
Donc, bon, c'est les mécanismes de ce jeu-là hein, aussi, hein, c'est-à-dire que
Mais
ça fait partie de la réussite du jeu.
ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur de ce jeu est européen et pas américain,
Oui.
justement.
Oui.
Oui, mais si on reprend les analyses de Jacques Danselot, on est tout à fait dans ce truc-là, quoi. Enfin, je sais pas si. Voilà.
Enfin, c'est l'école de Chicago, hein, City Life. Enfin, c'est
Oui,
vraiment.
c'est
Ah
quand
ouais.
même l'école de sociologie qui
C'est assez
reprend.
intéressant.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir que des joueurs du monde entier se sont appropriés ce jeu qui est vraiment, pour le coup, le modèle de la ville nord-américaine et peut-être même un modèle ancien de la ville nord-américaine. Parce que l'école de Chicago, dans ses débuts, je dirais, pas forcément. Enfin, on a vraiment ces ghettos. Ça s'appelle pas ghetto, mais. Donc c'est pareil, là, les captures d'écran sont pas terribles parce que j'ai. Juste trouver
C'est vrai
ce
qu'on n'en trouve pas
quartier qui serait
beaucoup,
un
hein. J'ai
quartier.
cherché aussi des images,
Non, parce
d'autres.
qu'elles sont toujours magnifiques,
Voilà.
parce que les joueurs sont super ravis de montrer leur front de
Voilà.
mer, de montrer leurs grands hôtels, et c'est ça la réussite, en fait, de la ville.
Oui, je
C'est.
connais pas.
C'est un jeu de console.
Il est.
Non, Monte Cristo aussi, c'est un jeu.
Il est également sur.
City Life,
il est sorti sur
Ouais.
console?
Non, je sais pas. Je
Ah
connais pas le jeu. Enfin,
non, peut-être
je sais
pas.
pas.
Ouais,
Je sais
c'est
pas, je
un
connais
genre
Charmander,
de
mais.
SimCity, sauf que il n'y a pas tout le processus des impôts,
Peut-être qu'ils ont
etc.
sorti sur
Et
console,
que
alors. Ah, peut-être.
c'est le but du jeu, c'est de gérer les conflits entre les communautés.
D'accord.
Enfin,
Et j'ai pas
le
compris
plus gros du jeu.
l'école de Chicago là-dedans. Qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est quoi?
C'est le modèle urbain qui a été utilisé.
D'accord.
C'est
Ça, c'est
le
voilà, c'est un
modèle.
modèle basé sur
D'accord.
Et la
l'invasion
carte de gauche, c'est quoi?
Une
Non,
communauté
bah,
en face
voilà,
qui est
l'illustration.
relayée dans un autre pays. C'est quelle ville son tour?
C'est ça au
Face
colo.
d'une communauté
Ah.
ouverte, plus pauvre, plus dominée, etc.
C'était, bah, là, oui, juste pour dire voilà que j'avais transposé sur, bon, je l'avais repris aussi sur l'idée d'étalement urbain, donc qui était censée être avant, sur une carte de São Paulo, on pourrait retrouver un petit peu ces mécanismes dans la ville réelle, là où finalement on n'accepte pas forcément cette ségrégation, on la pose comme un problème quand on la réfléchit, en tout cas en termes universitaires, la ségrégation subie. Pas forcément la ségrégation choisie, mais celle, la ségrégation subie, c'est quelque part une faillite de la ville, c'est lié soit à un urbanisme déficient, soit enfin, selon les explications qu'on peut trouver, et quelque part, bah, le joueur se sent très bien dans ce type de ville, et accepte totalement ce type de mécanisme où il doit séparer les communautés pour gérer les conflits, c'est séparer. Quelque part, on peut peut-être même retrouver là pour le coup le modèle du mur, hein, où on sépare donc soit le mur des communautés fermées ou le mur, alors je vais revenir au Villanguer, mais où on sépare pour réconcilier et on sépare en fait pour éviter le problème. Alors du coup, j'ai tout pris à l'envers. Non, mais c'est pas grave. Je vais essayer de retomber sur mes pattes. Sur la ségrégation, il y avait. Alors, je l'ai juste testé sur le début, donc c'est un jeu qui m'a pas mal interrogée parce que ça permettait de rebondir un peu sur la ville durable. Mais là, dans le côté complètement ludique, c'est Brink. Qui est sorti là en décembre, hein, donc c'est pour ça alors là, on est sur une ville flottante, comme très souvent, hein, sur une ville flottante, qui est conçue au départ comme la ville parfaitement écolo. C'est,
voilà. Il y a des modèles d'architecture conceptuelle sur les villes flottantes.
La ville, elle s'appelle l'Arche. Donc justement un peu l'Arche de Noé, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de réfugiés climatiques.
Oui, voilà.
Donc la ville au départ, elle est conçue pour 5000 habitants. Les 5000 habitants, donc grosse catastrophe, hein, et du coup les 5000 habitants qui s'emparent de ça sont bien sûr 5000 riches qui vont s'emparer des quartiers centraux. Mais... Premier problème, c'est l'arrivée de 50 000 réfugiés climatiques qui là du coup ne sont pas du tout prévus, n'ont pas les moyens d'habiter dans les quartiers centraux, vont commencer à s'installer dans le terminal des containers, donc en périphérie, qui vont au fur et à mesure se transformer en bidonville. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai juste entamé le début du jeu, donc je connais pas tous les mécanismes, mais bon... je trouvais que c'était assez intéressant. Et pour le scénario, ce qui s'y passe après, c'est que par la présence de ces 50 000 réfugiés climatiques non prévus dans l'Arche, on arrive très vite à un épuisement des ressources naturelles de cette ville flottante et à une guerre civile entre les deux types de réfugiés climatiques. Les riches qui s'étaient appropriés la ville avant la catastrophe avaient déjà acheté leur lopin de terre, etc., et les véritables réfugiés climatiques, ceux qui n'ont pas de droit de cité quelque part et qui se sont installés dans les bidonvilles. Donc pareil, je trouvais que ce jeu, alors là pour le coup il faudrait vraiment y jouer plus longtemps et finir, voir jusqu'où il va, si le scénario met vraiment en scène la ville ou pas, donc je peux pas conclure sur ce jeu, mais le rapport à la fois à la ville écolo, aux réfugiés climatiques, à la ségrégation, étaient des choses qui étaient interrogées.
Le but du jeu, c'est quoi ? Sur la jaquette, qu'est-ce qui... Enfin,
c'est la guerre civile, en fait, qui va... Sur la jaquette, je me rappelle pas.
Mais c'est un FPS ?
Je crois qu'ils le... Ouais, il me semble qu'ils le vendent comme ça, ouais.
D'accord. Donc c'est quoi, il faut tuer tout le monde pour gagner, c'est ça? Enfin,
il faut repousser.
Et on joue de quel côté?
Moi je me suis retrouvée du côté des riches.
D'accord.
Donc, alors après j'ai pris une partie.
Il y a deux campagnes en fait.
Voilà, donc il faudrait vraiment... il vient juste de sortir, hein, donc c'était un test. Je pense qu'on peut être de l'autre côté. Il faudrait revoir... revoir tout le jeu, mais je trouvais que le scénario était quand même... Oui, en même temps, 5000, c'est aussi... Il y a le rapport...
Non, c'est 5000 plus les domestiques, j'ai mis.
Voilà, non, mais c'est... Voilà, il y a le rapport à l'argent où on peut acheter tout un tas de gens, des mercenaires, etc. Donc, dans les 50 000, il va y avoir une partie qui va s'intégrer, l'autre qui va être complètement dans les bidonvilles, enfin... très rapidement on tombe dans la guerre civile, hein, de toute manière. Le but du jeu est plus là que dans la ville. C'était le postulat de base, en fait, moi qui m'avait un petit peu intrigué sur cette magnifique cité écolo, puisqu'elle est vendue comme ça, hein, finalement.
L'argument finalement se retourne, quoi, finalement, de la ville écolo, arrive finalement à une ville refuge, quoi, en quelque sorte, contre les réfugiés climatiques. C'est pas tellement dans la construction.
C'était ça, c'était.
La ville écolo, c'est plus dans une ville refuge, en fait.
une ville refuge choisie, là pour le coup ségrégation choisie, qui va attirer d'autres personnes, et avec l'idée d'indésirable en fait dans la ville, donc la mise en scène d'indésirable. Indésirable entre guillemets, hein, on est bien d'accord, mais d'habitants qui ne sont pas prévus et qui ne doivent pas être intégrés à la ville. Donc,
si tu peux me permettre cet aparté, mais du côté des architectes, il y a un paquet de productions hein, là-dessus, sur l'architecture conceptuelle, sur la ville flottante, etc. Guilbeault, oui. Des gens comme ça.
Là, en l'occurrence, c'est plus un prétexte pour le scénario qu'une véritable réflexion sur
oui. Complètement,
surtout si c'est un FPS. Ouais.
En même temps, et oui, il faudrait
voir...
Oui, non, mais
quelque part, il y a quand même une réflexion aussi sur cette question de la ville-refuge, quelque part, qui est aussi...
on revient toujours à cette idée d'une ville qui serait idéale, ce serait une ville-refuge qui ne grandirait pas, quelque part, qui n'accepterait pas d'autres habitants. Enfin, je trouvais qu'il y avait toujours, que ce soit dans la ville imaginaire... Alors, comme je dis, hein, c'est des pistes, il faudrait vraiment pouvoir faire des enquêtes auprès des joueurs, voir s'ils ressentent ça, est-ce que c'est pas au départ un prisme de géographe qui me fait voir ça.
Une production sur les cabanes, par exemple, dites écologiques, et par ailleurs, on a la loi Adopi, par exemple, qui va supprimer effectivement la cabane. Donc on a à la fois la cabane comme construction écologique d'un modèle effectivement durable, et puis à la fois celles qui préexistent pour autant sont pas non plus bienvenues parce qu'elles ne rentrent pas dans une production écologique, et puis elles sont plutôt mal vues parce qu'elles sont précaires. C'est assez marrant quoi de voir ces...
Et en même temps, enfin moi ce qui m'étonnait dans le jeu vidéo, enfin ce qui m'interrogeait, c'était de voir cette mise en scène des ségrégations poussées à l'extrême, la ville idéale comme espace-refuge, mais clairement pour des choisis, qui sont quelque part des choses dénoncées sur le plan médiatique, etc., comme des défauts de la ville, comme des maux urbains, vraiment, hein, au sens... de maladies qu'il faudrait guérir pour que la ville fonctionne et reste ce lieu de sociabilité, et que du coup ça mettait vraiment en exergue les vulnérabilités de la ville telles que on les conçoit. Alors, comme je dis, ça reste des pistes, hein, c'est plus des interrogations que des conclusions, mais des menaces de la ville, de ses vulnérabilités qui... alors que le jeu est censé être un espace où on s'évade, quelque part, on accepte complètement les pires caricatures spatiales, en l'occurrence. Mais comme on pourrait l'accepter aussi d'avoir des normes sociales dans le jeu qu'on n'accepterait pas forcément... Oui,
dans la vie réelle, c'est quand même le couple ségrégation, gentrification qui fonctionne aussi. Enfin, je veux dire,
Oh, mais c'est dénoncé quand même, si on regarde dans les aménagements.
La vie idéale muséifiée, patrimonialisée, etc., c'est quand même ce couple-là aussi qui fonctionne.
La ségrégation non choisie, en fait. Du coup, on revient un petit peu à ça. Mais si on regarde l'aménagement urbain, son but, c'est de casser ça quand même. C'est de permettre à peut-être toute la ville, dans l'absolu, hein, dans l'utopie, d'être un grand espace... où la mixité sociale, en tout cas, pourrait ne pas être problématique, sans aller trop dans l'utopie, mais...
Juste pour finir, pour faire des liens avec d'autres médias, c'est exactement... Enfin, la ville que tu décris dans Brink, c'est exactement la même que dans un des derniers films de Romero, qui est Land of the Dead, je crois, qui est sur les zombies encerclant une cité, avec au centre les riches et dans les bidonvilles autour, mais qui met en scène aussi les rapports de domination économique. Par contre, beaucoup plus entre les deux classes, parce que en gros, les bidonvilles, c'est de la main-d'œuvre au service de la richesse, donc il y a quand même des relations. C'est pas la guerre civile justement entre les deux, c'est tout l'enjeu du film, c'est de faire apparaître la guerre civile parce qu'il y a des résistants, etc.
Mais en fait, justement, dans City Life, c'est de la ségrégation, c'est de la ségrégation communautaire, mais on ne peut pas gagner si on n'a pas des représentants de chaque communauté. Parce qu'il faut quand même de la main-d'œuvre pour que la vie fonctionne, pour occuper les gens.
Justement, les démunis sont absolument indispensables en soi.
D'une certaine manière, c'est un modèle qui est presque Parce que encore pire, parce que c'est naturalisé d'une certaine manière. Ouais. Le social, c'est dire que c'est nécessaire à la marge de toute bonne cité. Il faut bien qu'il y ait des gens qui travaillent et d'autres qui.
Ouais.
Oui, c'est ça.
C'est... Mais attention,
il y a
les
des gens
qui travaillent.
C'est
des travailleurs pauvres,
mais
ils travaillent.
Non, mais, c'est ce qui... c'est... Non, non, mais ouais. Je veux dire, il est légitime qu'il faut qu'il y ait une working class.
Voilà,
qui,
c'est ça.
À l'ancienne. Hein.
Ouais. Comment il s'appelle ?
C'est Land of the Dead, je crois. C'est un film d'horreur, hein, à la base.
Non, mais cela dit, c'est un imaginaire qu'on retrouve un peu sur tout type de support. Beaucoup dans la science-fiction, mais on pourrait le retrouver aussi beaucoup dans
les
mangas.
Dans
les mangas, on retrouve.
Dans tout le survival horror
ouais.
Et dans les jeux
de survival. On va peut-être.
Oui,
si on veut, si on,
bien
si
sûr.
On veut, t'es le temps de finir ton.
Non, mais.
Ouais.
Du coup, c'est un peu en bazar. Donc, les mobilités,
ouais.
J'en avais un petit peu parlé. Enfin. Voilà, c'est quels sont les questionnements, en l'occurrence géographiques, parce que c'est le petit biais que je prends, mais en interrogeant le comportement du joueur dans sa façon de s'approprier ses villes, ses différentes villes, on peut avoir une autre manière de penser la ville, notamment par les mobilités. Donc, comment, quelque part, enfin, les interrogations qu'on pourrait avoir pour des enquêtes, pour essayer de voir si ces hypothèses sont valables, ce serait d'essayer de savoir si, comment le joueur envisage des pratiques spatiales peut-être idéales dans cette ville, quels sont les lieux typiquement urbains pour lui qui font que ça fait ville. Que le jeu fait ville, enfin, qui se sent dans une ville et pas juste dans un décor. Je pense que là, l'entrée mobilité peut être intéressante parce que bien gérer sa mobilité est souvent un enjeu dans les jeux vidéo qui mettent en scène la ville. Bon, bien sûr, sur les jeux de skate, je disais que c'était le type de jeu qui permettait de... Enfin, parmi les jeux qui montrent bien la ville telle qu'elle peut être acceptée par le joueur. Mais on va avoir aussi... oui, j'avais une image justement du fameux... de la fameuse ville flottante, alors, qui est très sombre, parce que... J'ai pas réussi à trouver mieux. Quels sont. Justement, je trouvais que c'était assez. Aussi, une des interrogations qu'on pourrait avoir, à savoir que. Pourquoi sur Internet, quand un joueur veut montrer son résultat de ville construite, ville idéale, pourquoi il montrera toujours. On a toujours le CBD, le front de mer et un grand hôtel. Enfin, si le joueur choisit trois captures d'images pour montrer aux autres, voilà la ville que j'ai faite, que ce soit dans SimCity, dans City Life, dans Cities XL, ça sera de façon peut-être un petit peu caricaturale, mais on aura toujours ces trois images. Donc, ce serait aussi quelque chose à interroger, pourquoi ça fait ville d'avoir ces trois images, pourquoi ça fait ville idéale, pourquoi ça fait pourquoi on montre regardez, j'ai réussi ma ville parce que j'ai ça. Est-ce que alors que justement c'est peut-être ça qui fait tous les problèmes qu'il a ensuite dans la gestion du jeu par la suite. L'étalement urbain, j'y reviendrai pas forcément très longtemps parce qu'on a, ça a été un petit peu abordé tout à l'heure justement sur l'approche de la ville comme système, donc ces jeux qui mettent en scène la gouvernance de la ville, également la question de la ville durable commence un peu à poindre son nez. C'est quelque chose à voir dans l'évolution des jeux complètement ludiques là pour le coup, mais on est là aussi toujours quelque part, non pas dans la gestion de la ville, mais clairement dans la gestion de la vulnérabilité de la ville. C'est-à-dire qu'on est dans une ville à vivre dans laquelle il faut éviter les conflits, éviter la catastrophe, éviter la faillite, éviter le chômage, selon les mécanismes du jeu, ça va être des choses différentes. Mais du coup, cette ville devient un terrain de jeu pour le joueur et finalement, l'étalement urbain devient son défi. Donc là, on n'est pas du tout dans la ville idéale, on est plus dans justement les menaces de la ville quand elle évolue et quand elle se construit, donc quand elle n'est plus cette petite ville idéale qu'on peut contrôler assez facilement.
Donc l'étalement urbain là, est bien vécu comme une catastrophe.
Non, là, c'est des jeux de simulation, donc on est vraiment dans la gestion de la ville. Donc l'étalement urbain, c'est quelque chose qui fait que c'est réaliste et qui fait qu'au fur et à mesure, se posent des défis aux joueurs. Parce que sinon,
c'est présenté comme un phénomène naturel.
Oui, voilà, c'est ça.
Surtout ça qui est intéressant.
C'est pas montré comme une catastrophe.
Sauf, finalement, dans les jeux antiques, enfin les jeux antiquisants, comme Kaisar ou City Rome. Et finalement, c'est dans les jeux où on doit gérer une ville qui n'existe plus ou qui n'existe pas qu'on retrouve justement le modèle de la ville compacte. Alors que les jeux où on gère une ville contemporaine, on doit plutôt privilégier l'étalement urbain. Il y a un renversement qui est assez intéressant.
Alors que pour le coup, la ville antique, pour certaines, pouvait s'étendre. Enfin, Rome s'est étendue, donc c'est pas forcément... justement, peut-être parce que c'est antique, passé, on essaie de retomber un petit peu sur... Sur cette ville qui resterait dans des marges qu'on pourrait maîtriser. Ouais. Donc du coup, c'était par rapport à cette... au départ, hein, ce qui m'avait intéressé, c'était plus la guerre urbaine. Donc du coup, ce qui m'intéressait de voir, c'était qu'on la retrouvait dans la ville menaçante, qui serait la ville hyper réaliste de GTA 4, de Counter-Strike, de Call of Duty, qui mettent en scène des situations qui se veulent réalistes, qui ne sont pas forcément loin de là même, mais du coup, une ville menacée par soit le terrorisme, soit une catastrophe, soit la guérilla ou une guerre civile. Parallèlement, on aurait des jeux qui mettent en scène une ville complètement imaginaire, qui du coup, là, est dans ses remparts, ou en tout cas n'est pas amenée à devenir un lieu de conflit, et du coup, ce serait peut-être un petit peu utopia quelque part. Elle reste confinée, et ce lieu de sociabilité, un espace de refuge face aux espaces des monstres qui sont susceptibles d'attaquer le héros dans sa quête. Et en fait, je trouvais que ce soit dans la ville imaginaire ou dans la ville qui se veut réaliste, on est quand même toujours sur des représentations de la vulnérabilité qui ne fait peut-être pas preuve d'urbaphobie, il faudrait peut-être pas aller jusque-là. En tout cas, qui mettent en scène les peurs sur la ville, les peurs de la ville. Donc là, pareil, on pourrait clairement faire le parallèle avec la bande dessinée, avec le cinéma énormément. Cette mise en scène des vulnérabilités qui, quelque part, inquiète le joueur, peut-être pas dans son quotidien, mais qu'il accepte comme des vulnérabilités susceptibles d'être réalistes. Donc les mobilités, j'en ai parlé par rapport à GTA 4, mais justement le fait d'avoir des pratiques spatiales imaginaires, enfin dans le jeu, complètement différentes en fonction du type d'acteur, c'est quelque chose qui interroge parce que on pourrait questionner pourquoi les joueurs préfèrent être un tueur dans GTA 4 au-delà du fait de tirer sur tout le monde, parce qu'on peut tirer sur tout le monde dans GTA 4 quel que soit le jeu, quel que soit le type de personnage, en soi, c'est un petit peu le but du jeu. Donc, de toute manière, quel que soit le personnage, ce n'est pas un problème. On se retrouve dans cette situation. Qu'est-ce qui fait que, finalement, être dans les zones d'ombre être justement totalement furtif procure un plaisir au joueur, quelque part, de transgresser ce qu'il fait dans ses pratiques spatiales habituelles, des quartiers où il ne mettrait pas les pieds. Bon, très caricaturaux, hein, là c'est pareil, hein, les ghettos sont de façon mise en scène de façon caricaturale, mais du coup cette possibilité d'aller dans les territoires du danger qu'il se permet via le jeu, et bien évidemment, paraissait quand même le plus intrigant, c'était quand même ces ségrégations, même dans la ville idéale est parfaitement ségrégative. Que ce soit au niveau de la fonction de la ville, on a le port commerçant, on a la ville studieuse où les gens viennent se former pour devenir alchimistes, hein, donc avec beaucoup. Si je reprends Final Fantasy, l'exemple de tout à l'heure, on va avoir une ségrégation donc fonctionnelle et une ségrégation communautaire qui se juxtaposent et qui sont parfaitement acceptées dans ce monde imaginaire qui présente cette ville un petit peu. Fantasmé comme le lieu de sociabilité par excellence. Donc voilà, c'était quelques pistes qui m'interrogeaient. En fait.
Tu vois, ça fait plein de questions.
c'était l'idée en fait. Si, du coup, je vois mes petites notes. Si je peux me permettre de recommander deux blogs qui ne parlent pas forcément des jeux vidéo en soi, mais qui ont fait quelques billets. C'est le blog de Thierry Joliveau qui s'appelle Monde Géonumérique, qui lui s'est interrogé sur Liberty City. Il avait fait une série de billets sur New York, Liberty City, donc qui ouvrait vraiment à beaucoup de choses, hein, à la littérature qui n'était pas forcément dans le jeu vidéo. Qui s'interrogeait aussi sur la mondialisation du jeu, donc des choses un petit peu de ce jeu GTA 4 un petit peu différentes.
Il s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui.
À chaque fois je le manque. Il y a un site qui s'appelle Transit City qui propose plusieurs cycles de séminaires. Je cherchais son nom, je ne le retrouvais plus. Et justement, qui s'interroge beaucoup sur les villes fictives. Et également, il s'est interrogé sur. Il avait fait un billet comme ça sur les guerres urbaines. Il s'était un peu interrogé. Alors, je ne sais plus sur quel jeu il était parti, mais je pense qu'il y avait Counter-Strike, Call of Duty, enfin, les classiques par rapport à la guerre telle que. Qui, à mon avis, est à suivre aussi comme site, parce que régulièrement, les jeux vidéo reviennent dans ces billets. Donc voilà. Merci en tout cas.
Non, merci à toi. Je sais pas, il nous reste 2 secondes pour la classification que tu fais des représentations de la ville, elle me fait penser à une classification qu'on a faite des espaces. C'est un truc qu'on avait fait pour un séminaire où on distingue 3 types de mondes. Alors on avait appelé ça les mondes géoréférencés. Les espaces modèles, les espaces géoréférencés, les espaces modèles et les espaces imaginaires. Et je pense que ça marcherait pas mal avec les villes aussi. Les espaces géoréférencés ou les villes géoréférencées, ce serait par exemple Liberty City. Donc des villes qui ne sont pas forcément les villes elles-mêmes, donc c'est pas forcément New York ou Venise, mais il y a tellement d'indices dans le jeu que on reconnaît même si c'est pas ça. Alors dans Assassin's Creed c'est Venise, on le sait parce que voilà, il y a Campanile etc, puis c'est dit c'est Venise. Dans GTA 4 c'est pas New York mais c'est New York,
oui, mais tout le monde sait que c'est New York.
C'est pour ça qu'on avait dit géoréférencé parce que voilà, ça fait référence à un... Et deuxième espace, donc c'est les espaces modèles, mais je pense qu'à t'écouter finalement ce serait plus intéressant d'appeler ça les espaces hyperboliques. Si tu as employé le terme d'hyperbole, ça marcherait pas mal. Donc en fait, c'est des espaces qui ne font pas référence à une ville en particulier, mais plutôt ou à un espace en particulier, mais plutôt à un modèle d'espace ou à un modèle de ville. Donc c'est SimCity.
Oui.
SimCity, la ville américaine, City Life, la ville ségrégée, etc. Cette hyperbolique, du coup, ça marcherait mieux que modèle, parce que modèle, il y a l'ambiguïté avec la simulation. Donc je te remercie pour le terme d'hyperbole, je trouve que ça marche pas mal. Et puis il y aurait les espaces imaginaires ou les villes imaginaires qui seraient pour le coup de la production, on va dire, fictionnelle. Et qui n'est pas non plus de la pure fiction, parce qu'il y a forcément de l'inspiration qui va piocher. Donc
Oui, la
voilà,
fiction porte.
on avait fait ça pour les espaces, mais finalement ça marche bien pour
Ça
les villes
marche bien,
aussi,
oui, complètement d'accord.
avec l'autorisation de reprendre l'expression hyperbolique, l'espace
Il
hyperbolique.
n'y a pas de label.
Et sinon, sur cette histoire de capture d'écran qui sont mises en avant, où on voit de la verticalité, du front de mer, est-ce que c'est pas parce que dans ces jeux de simulation, la verticalité est justement un critère d'évaluation de la performance du joueur?
Oui, non, il y a clairement les mécanismes du jeu qui sont. C'est pour ça que je disais que c'était des pistes à interroger, voir si ce ne sont que les mécanismes du jeu qui font que. Parce que là, finalement, on est sur un forum où. Enfin, capture d'écran, enfin, le témoignage que j'ai mis, par exemple, il mettait ça et après il mettait plein de photos de sa ville et il mettait pas les photos, enfin, il mettait pas de capture d'écran de là où ça posait problème, mais que de là où ça marchait. Donc là où ça lui faisait gagner des points. Mais par contre, alors qu'il était venu sur le forum, ça devait être catégorie problème à régler. Donc logiquement, on se dit, il va montrer
Où est le problème?
où est le problème pour indiquer aux joueurs. Où est le problème? Mais pas l'inverse. Enfin, et à aucun moment, enfin, c'est un exemple, mais ce type. Alors là, pour le coup, il faudrait vraiment faire un recensement beaucoup plus grand des forums et de vraiment voir si ce type de témoignage se recoupe ou si c'est juste les mécanismes du jeu qui font que il met ça en avant. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment des interrogations plus que, enfin, clairement, pas des conclusions.
Alors, ceci dit, il y a quand même toujours enfin, il y a toujours de la question du défouloir, à mon avis, qui pose problème, enfin, notamment dans le cas de GTA 4. Parce que tu dis que ça permet de faire des choses, enfin, d'aller par exemple dans des quartiers où on n'irait pas dans la vraie vie. Donc, ça veut bien dire que, enfin, en tout cas, ça suppose que les joueurs sont capables de prendre de la distance par rapport à la ville qu'il y a dans le jeu, c'est-à-dire qu'ils savent bien que ce qui est représenté, c'est pas forcément la ville réelle, mais qu'en même temps, ils en profitent. C'est le fait que la ville représentée ne soit pas la ville réelle qui permet justement cette capacité de découvrir. Mais ça, c'est une question qu'on peut mal. Enfin, on peut dire beaucoup de choses très théoriques dessus, faire beaucoup d'élucubrations, tant qu'on n'a pas de compte rendu d'entretien,
Mais là, pour eux, on est dans une ville habitée, là, parce que justement, il y a la connaissance du territoire occupé et
Ce
des
type de jeu, ouais.
modalités, des bandes, etc. Alors qu'à l'inverse, on est souvent dans une ville structure, quoi, où il n'y a pas forcément des gens.
Mais sauf que ça te pose toujours le problème de savoir ce que le joueur, enfin, comment le joueur considère ces espaces. C'est-à-dire, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les villes dans Zelda. Est-ce que le joueur sait parfaitement que cette ville, c'est simplement un lieu où on achète son épée et où on va à la taverne pour se reposer? Ou au contraire, il construit un discours sur un récit sur la ville telle qu'il est représentée. Enfin, personnellement, quand je vois Zelda, je me dis pas, tiens, j'arrive en ville. Je me dis, tiens, je vais pouvoir aller me soigner. Enfin,
Les premiers Zelda, si tu remontes quand même à ceux qui étaient sur NES ou sur Super Nintendo, la ville c'était aussi le lieu des enquêtes. C'était là où tu allais quand même poser plein de questions qui te faisaient avancer parce qu'il fallait que tu rencontres telle personne pour qu'à un moment il te donne l'indice, mais tu lui avais parlé 15 fois avant, bah, c'était pas le moment où il devait te donner l'indice, et sans cet indice-là, ta quête elle était bloquée. C'est plus du tout vrai dans les Zelda maintenant, mais il y avait quand même
Non, mais bien
y
sûr, il y a
avait
une
quand même
nette
ça dans
évolution. Dans les Zelda,
ce.
il y a une nette évolution de la représentation de la ville, qui est assez
Oui.
intéressante.
Et d'ailleurs, on était plus dans le petit village. Enfin, dans le gros bourg, la petite ville, je sais pas, mais. Et maintenant, ce serait plus une ville paysage esthétique, pour le coup, dans les Zelda actuels.
Bah, justement, ce qui marche bien dans Twilight Princess, c'est qu'il y a plein de choses inutiles à faire dans la ville.
C'est pas
Et
faux.
enfin, on peut parler à plein de gens, ça ne sert à rien. Enfin, c'est simplement des dialogues. Alors, c'est toujours les mêmes dialogues, on pose trois fois la même question. Mais ça donne une certaine épaisseur, ça donne une illusion d'interaction sociale, oui, voilà. De sociabilité,
qui reste complètement illusoire. C'est toujours les mêmes dialogues, tu ne fais pas. Oui.
Mais tu le fais une fois, en fait, tu le fais une fois juste pour voir s'il y a des blagues ou si ou ce que tu racontes les gens, mais tu vas pas y retourner.
Non, parce que typiquement, dans les Elder Scrolls, c'est pareil, tu peux parler à tout le monde, il me semble, et tu peux poser des questions, quelles sont les rumeurs, etc. Mais en fait, rapidement, bon, la ville, tu vas acheter ta maison, mettre des meubles dans ta maison, c'est ta question, quoi.
Mais en même temps, chez toi, c'est pareil, c'est-à-dire. Tu vas pas demander qu'un soit à ton boulanger comment il va, où est-ce qu'il habite.
Oui, mais je vais demander qu'un soit à mes amis, je leur demande tous les jours comment ça va. Donc, mine de rien,
les réponses évoluent aussi.
Alors, voilà.
Que là, s'il va pas bien, il va jamais bien.
Il me semblait que dans Fable, les dialogues évoluent en fonction du. Enfin, au fur et à mesure du. Mais j'ai jamais joué. Au fur et à mesure de ton avancée dans le jeu, enfin, qui a. Qui est une adaptation.
Mais globalement, il y a peu d'interaction sociale en fait dans les jeux. De façon de...
Bah pour le coup, Zelda, elle s'est perdue.
Oui.
Si on prend la saga Zelda, elle s'est perdue. Parce que, quand je joue au Zelda récent, j'ai l'impression que le maintien de ces petits dialogues et tout, c'est plutôt par rapport aux joueurs de la première heure qui ont ces petites habitudes plus que vraiment nécessaires au jeu.
Mais au niveau des interactions sociales, il parlait d'Elder Scrolls, moi il me semble que ça reste quand même l'un des jeux où c'est le plus poussé. L'un des tests.
Non, c'est un des jeux, c'est le plus poussé.
L'un des tests que tu peux faire, c'est que dans Elder Scrolls, les gens te répondent pas si t'es en sous-vêtements. Ils te disent va t'habiller, ou t'as vu comme t'es sale.
C'est des choses
bizarres. Oui, il y a plein de jeux où il y a ça, parce qu'il y a plein de jeux où t'as des systèmes de genre de réputation avec les factions, par exemple. Je crois que dans Fallout, il y a ça. Planescape, t'as ça aussi. Je crois que dans World of Warcraft, t'as un peu ça aussi. C'est-à-dire que les commerçants te disent pas la même chose selon ton niveau de réputation en fonction de telle ou telle faction. Et comme il y a plein de jeux où dès que t'augmentes ta réputation auprès d'une faction, ça la baisse auprès de l'autre mécaniquement parce que t'as des ennemis, etc. Ça fait que t'as ce genre d'interaction aussi. Donc en fait, c'est simplement la question. Le fait est que dans The Elder Scrolls, effectivement, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de détails.
Mais en fait, c'est aussi pour ça. Quand même social, il faut quand même adhérer. Quoi.
Et c'est aussi pour ça qu'on aime The Elder Scrolls. Enfin, que nous, chercheurs, aimons The Elder Scrolls. C'est parce que c'est un jeu où on a l'impression que c'est un vrai modèle. Enfin, voilà. Mais qu'est-ce qu'on aime dedans? C'est pas le fait de pouvoir parler aux gens. C'est pas parler effectivement aux gens, c'est le fait de pouvoir leur parler, justement. C'est la potentialité. C'est de se dire, regardez, ce jeu est tellement réel que je peux parler aux gens, ils vont me répondre, on va avoir une discussion comme j'aurais avec la boulangère. Mais sincèrement, je joue pas à un jeu vidéo pour parler avec la boulangère. Non, je joue au jeu vidéo pour tabasser. Bah, c'est une série de 3-4.
4 même.
Comment tu l'appelles?
Elder Scrolls. Donc le dernier, c'est Oblivion. Avant, il y a eu Dagger
of Morrowind. Comment tu
l'appelles? Elder comme les Scrolls, c'est les machins.
S-C-R. E-D-E-R et puis Scrolls, S-R-O-V-E-N. Il y en a eu 4.